Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. Le Muséum d'histoire naturelle est l'un des fleurons des équipements culturels de la métropole toulousaine et l'un des plus fréquentés parmi ceux-ci. Il faut dire que c'est aussi un des plus anciens puisque ses origines remontent à la fin du XVIIIe siècle et que son ouverture au public date de 1865. Des travaux de rénovation ont eu lieu à la fin des années 90 avant sa réouverture en 2008. Nous célébrons donc cette année les 10 ans du Muséum rénové. C'est l'occasion pour Métropolez-vous de donner un coup de projecteur sur cet établissement, certes très visité mais dont la richesse des collections, les missions, les actions ne sont peut-être pas aussi connues qu'elles devraient l'être des citoyens métropolitains. Vous allez également découvrir que le Muséum d'Histoire Naturelle, au-delà de son activité principale, collabore souvent avec d'autres établissements, d'autres structures culturelles ou scientifiques de la métropole. Ce numéro lui est consacré et a donc été intitulé « 10e anniversaire de sa rénovation, le Muséum aujourd'hui et demain ». Le Muséum d'Histoire Naturelle a un directeur qui s'appelle Francis Duranton et il nous fait l'honneur d'être l'invité de cette émission pour parler de l'établissement qu'il dirige. Bonjour monsieur le directeur, merci d'avoir accepté de vous exprimer au micro de Radio Présence. Si vous êtes directeur et conservateur en chef du Muséum de Toulouse depuis 2011, je dois tout de même préciser qu'après des études de géologie, vous êtes entré au Muséum en 1982, entre autres pour y rédiger votre thèse, et que vous avez été, à l'époque et à l'âge de 21 ans, le plus jeune conservateur de musée de France. Vous êtes aussi paléontologue, vous avez été animateur d'émissions à la télévision, notamment pour Bonjour l'ancêtre et Les Dessous de la Terre sur France 3 et France 5. Tout ça pour dire que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais que ce qui semble être le fil conducteur de vos activités, c'est d'abord la volonté de partager et de transmettre votre passion. Est-ce que je me trompe en supposant cela ?
Je crois que vous ne vous trompez pas, effectivement. Moi, j'ai la chance extraordinaire d'exercer un métier qui me met en position entre le monde de la recherche et le monde qu'on pourrait qualifier de profane. Et effectivement, faire ce lien, c'est extraordinaire. Et du coup, en ayant à la fois un cursus de chercheur d'un côté et en travaillant au muséum de notre côté, je me trouve systématiquement entre les deux domaines. Et je trouve que c'est extrêmement important pour nous, et notamment pour les équipements culturels, que de partager l'ensemble des connaissances. Et nous, notre rôle, c'est un peu d'être des médiateurs, de parfois simplifier le discours scientifique qui peut être très abscons et de le rendre accessible à tout le monde. Parce que finalement, ce que l'on fait là, mais c'est ni plus ni moins que rendre aux gens ce qu'ils nous permettent de développer au quotidien à travers les impôts qu'ils payent, puisque ce sont eux qui nous salarient, et on peut comme ça leur rendre une petite partie de ce qu'ils nous permettent de développer.
Alors, puisque vous en parlez, quelles sont aujourd'hui les activités principal du muséum, sans entrer dans le détail, on fera tout à l'heure, mais les activités principales.
Écoutez, il y a plusieurs activités. D'abord, nous sommes un lieu où on fait des expositions. Ça, les Toulousains le savent, ils viennent nous voir nombreux, donc ça, c'est un point important de l'activité du muséum. Mais on a aussi toute une activité de gestion de collection. Donc, gestion de collection, ça veut dire, bien sûr, entretenir ce que nous avons hérité de nos ancêtres, préparer ce que nous allons transmettre aussi aux générations futures, parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Ça veut dire aussi enrichir les collections, et puis ensuite, développer des programmes de recherche aussi également sur nos collections, travailler avec des archives, essayer de mettre ces collections aussi au cœur des thématiques et des problématiques de recherche qui sont aujourd'hui d'actualité. C'est aussi un autre aspect du travail du muséum. Et puis ensuite, il y a, je dirais, tout le travail que l'on peut développer et faire, notamment en essayant de faciliter aussi les contacts entre individus, entre citoyens et autres, pour essayer de se poser des questions.
Merci pour ces premières explications et informations. Et d'informations, il va encore être question, puisque nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité métropolitaine. Pour ça, nous retrouvons Corinne Saint-Félix et son flash d'informations hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous commençons ce flash avec un des chevaux de bataille de la métropole de Toulouse qui cherche encore et toujours à mettre en valeur son patrimoine.
Oui, le centre historique recèle de nombreux éléments patrimoniaux exceptionnels qu'il faut protéger au sein du site patrimonial remarquable délimité depuis 1986. Toulouse Métropole s'est engagée aux côtés de l'État dans une démarche dont l'objectif est de favoriser le développement de la ville en intégrant ses dimensions historiques, sociales, économiques et fonctionnelles. Le PSMV, pour plan de sauvegarde et de mise en valeur, doit préserver et valoriser le patrimoine architectural ancien et contemporain afin de conserver l'identité de la ville de Toulouse et le rayonnement de sa métropole.
Et ce plan, en quoi consiste-t-il précisément ?
C'est un document d'urbanisme qui fixe les règles et les dispositions spécifiques établies après la réalisation d'un inventaire exhaustif. Le PCMV énonce immeuble par immeuble des prescriptions sur les extérieurs, toitures, façades ou cours, et les intérieurs, les appartements, cages d'escalier ou boiseries, aussi bien dans les parties communes que dans les parties privatives. C'est aussi un projet citoyen qui s'adresse à l'ensemble des habitants de la métropole. Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour vous informer et vous permettre d'y participer. Vous pouvez donner votre avis et déposer votre contribution en ligne pour apporter votre pierre à l'édifice en prenant part à l'élaboration de ce plan.
La mobilité et ce qu'on appelle les déplacements doux dans la métropole maintenant, le vélo reçoit le soutien de Toulouse Métropole.
Effectivement, elle vient de renouveler son soutien financier à la Maison du Vélo et à la Compagnie des Mobilités. Leur subvention pour l'année 2018 s'élève respectivement à 260 000 euros et 8 500 euros. Au-delà de l'aménagement des pistes cyclables, il s'agit aussi d'encourager les actions de sensibilisation à la pratique cyclable et les initiatives digitales innovantes.
Quelles sont les actions de ces deux institutions ?
Alors, la Maison du Vélo développe la location de vélos, une vélo-école et un pôle culture qui accompagne les acteurs locaux associatifs, employés des grandes entreprises et institutions pour le changement d'habitude de déplacement en favorisant l'utilisation du vélo. Le partenariat avec la Maison du Vélo se poursuit jusqu'en 2020. La convention signée avec la Compagnie des Mobilités a permis le lancement d'un calculateur d'itinéraire à vélo. Vous pouvez le retrouver sur www.geovelo.fr/Toulouse. Ce calculateur prend en compte le type de cycliste concerné, de novice à aguerri, et la cyclabilité des voies en fonction du trafic voiture et des aménagements cyclables. En 2018, 11,6 millions d'euros sont consacrés au plan vélo, soit 1,6 million de plus qu'en 2017. À ce jour, il existe près de 600 km sur la métropole, dont 320 sur Toulouse.
Pour finir, Toulouse, métropole des savoirs et des sciences, cette année, tous les regards vont se porter sur la ville rose puisque Toulouse est la cité européenne de la science. Plus de 150 événements sont annoncés.
Oui, elle accueillera du 9 au 14 juillet l'Euroscience Open Forum, la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science et l'innovation en Europe, en parallèle du forum destiné aux professionnels qui rassemblera près de 5000 chercheurs de plus de 80 pays. Plus de 150 événements grand public rythmeront l'année. D'ores et déjà, plusieurs événements vous permettent de redécouvrir ou de découvrir la ville sous un jour nouveau, sur les pas des chercheurs et inventeurs locaux au fil de l'histoire et de l'avenir de la science.
Et premier événement pour ouvrir les festivités, la nouvelle grande exposition du Quai des Savoirs.
Effectivement, la nouvelle exposition Humain Demain, qui a ouvert ses portes vendredi dernier, immersive et ludique, est en lien direct avec les recherches actuelles qui impacteront le futur de l'homme dans les domaines du corps et de la santé. Elle interroge aussi sur les questions éthiques qu'elles induisent. Elle a été coproduite par le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse, deux sites qui font partie de 5 lieux de culture scientifique mis à l'honneur avec la Cité de l'Espace, la Piste des Géants et Aéroscopia.
Voilà donc ce flash d'information de Corinne Saint-Félix. Francis Duranton, la dernière information de ce flash aura sans doute retenu toute votre attention. J'imagine que vous avez quelques précisions à apporter sur cette exposition Humain Demain à voir chez vos voisins du Quai des Savoirs, mais coproduite par le Muséum.
Oui, tout à fait. C'est le Muséum qui a piloté cette opération pour le Quai des Savoirs. Nous avons travaillé bien évidemment de manière étroite. Nous sommes voisins, nous sommes à 100 mètres l'un de l'autre. Et en plus, nous travaillons sur des thématiques scientifiques qui questionnent de manière générale les rapports que l'on peut entretenir à la science. Donc le choix que nous avions fait lorsque nous avons travaillé sur cette exposition, c'était aussi une prolongation, si vous voulez, des axes du muséum, puisqu'au muséum nous travaillons sur les questions homme, nature et environnement. Et on voit bien aujourd'hui que le développement culturel de l'humanité, son développement technique, technologique et autres, questionne aussi les rapports que nous allons entretenir dans le futur avec la nature et l'environnement. Donc bien sûr, l'homme a développé des capacités tout à fait extraordinaires, il a développé tout un tas de cultures, de civilisations, mais aujourd'hui il est même capable de travailler travailler sur ce que lui-même va devenir. Et donc on le voit à travers cette exposition de manière très ludique, on a un bracelet connecté, on peut définir, choisir un petit peu ce que l'on va soutenir comme invention à développer dans le futur. Tout ce qui est présenté là, ce sont véritablement des actions qui sont en cours, des programmes de recherche qui sont en cours. On va choisir de soutenir tel ou tel programme, des yeux pour voir la nuit, un exosquelette pour se déplacer, enfin voilà, plein de choses qui sont aujourd'hui à l'œuvre et à la réflexion dans différents laboratoires toulousains, français, européens, japonais, américains et autres. Et tout ça, pour nous, ce qui était intéressant, c'est de montrer que nos choix individuels, l'appétence que l'on va avoir selon telle ou telle technologie, mais va d'une certaine manière conditionner le futur et la société dans laquelle nous allons évoluer.
Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir cette exposition. J'invite vraiment nos auditeurs à aller la découvrir parce qu'on en ressort en se posant des questions qu'on ne se posait pas forcément en y entrant. Un petit mot peut-être sur ESOF, donc Toulouse Cité Européenne de la Science en 2018. Est-ce que le muséum est impliqué dans cette manifestation?
Bien sûr, le muséum, comme tous les équipements culturels de la ville, est impliqué dans cette manifestation. Je crois qu'on peut être fier d'accueillir cette opération à Toulouse. C'est quand même la première ville française qui est choisie. Il y a 2 ans, c'était à Manchester. Et la seule ville qui a été retenue en France, c'est Toulouse. Donc on voit bien effectivement que Toulouse est un lieu de science. Bien sûr, le muséum va s'associer. Nous avons donc déjà travaillé sur l'exposition Humain Demain qui est présentée au Quai des Savoirs. Nous allons présenter nous-mêmes une grande exposition consacrée à l'île de Pâques et qui a reçu le label de ESOF et puis toute une série d'activités avec notamment un rendez-vous au mois de juillet où on va permettre au public de découvrir un fossile extraordinaire qui fait partie des collections du muséum que personne ne connaît, qui porte un nom imprononçable de Razanandrongombe Sakalavae, qui est en fait un crocodile géant contemporain des dinosaures que nous avons la chance d'avoir dans les collections du muséum et puis d'autres opérations, un colloque en fin d'année, bref, beaucoup de choses. Oui, au mois de novembre, nous aurons un colloque ouvert qui va aborder la question des origines de l'humanité, où les Toulousains pourront venir rencontrer les meilleurs chercheurs de la discipline qui seront tous présents au muséum pour répondre à leurs questions.
Encore beaucoup de choses à découvrir. Alors après tous ces commentaires éclairés, nous allons poursuivre notre échange autour du thème de cette émission consacrée, je le rappelle, au 10e anniversaire de la rénovation du muséum, le muséum aujourd'hui et demain.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invité Francis Duranton, directeur et conservateur en chef du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Si l'on fait un petit historique du Muséum d'Histoire Naturelle, de sa fondation officielle, son ouverture au public au 19e siècle, à sa rénovation et à la réouverture du musée rénové il y a 10 ans, quelles sont les grandes étapes, les grandes dates de cette histoire qui s'étale maintenant sur 3 siècles, presque 4 ?
Presque 4, effectivement, puisque le muséum est fondé en 1796 par un grand naturaliste toulousain qui s'appelle Philippe Picot de La Pérouse. Tout le monde connaît la rue La Pérouse, oui. Mais voilà, et c'est lui, entre autres, qui a fondé le muséum, qui est ensuite devenu maire de Toulouse. Puis ensuite, début du 19e siècle, une histoire compliquée, des relations entre la mairie de l'époque et l'université qui occupe les lieux de manière indue. Napoléon, qui donne le bâtiment des Carmes des Chaussées à la ville de Toulouse en 1808, au retour de la bataille de Saragosse, pour y créer le muséum, de longues discussions, de longues tractations, et finalement le muséum qui ouvre ses portes au public en 1865, il fonctionne en continu pendant plus d'un siècle. 1998, on a des problèmes de toiture, des poutres qui sont fatiguées, parce que ce sont les poutres d'origine du monastère des Carmes, qui lui, il a été construit entre 1600 et 1623, des poutres qui fatiguent, on décide de refaire le toit, et la mairie de l'époque, sous l'impulsion de Dominique Baudis, décide de rénover le muséum qui finalement rouvre ses portes en 2008, le 25 janvier exactement.
Qu'est-ce qui explique historiquement l'importance qu'a pris le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, parce que c'est le deuxième de France, pas celui de Paris.
Oui, c'est un musée extrêmement important parce qu'il a des collections qui viennent en fait du monde entier. C'est toute la richesse de Toulouse. Les Toulousains sont des gens qui voyagent, qui aiment le voyage, qui aiment la découverte, et on a quelques grands noms comme ça toulousains. Je veux dire, qui connaît par exemple le commandant de Roquemorel, qui est né à Toulouse et qui pourtant est un des premiers hommes à mettre le pied sur l'Antarctique. Il va ramener de ses expéditions dans les mers du Sud des quantités de collections qu'il va donner à ce qui va devenir le muséum. Des gens comme Jean-Baptiste Noulet, qui sont les pères fondateurs de la préhistoire, qui vont donner leur collection au muséum. Bref, on a en fait de grands scientifiques et de grands voyageurs qui ont donné énormément d'objets au muséum de Toulouse, qui du coup se retrouvent à la tête d'une collection extraordinaire de plus de 2,5 millions d'objets qui proviennent du monde entier, ce qui fait la force de Toulouse. On aurait pu imaginer avoir à Toulouse des collections qui venaient exclusivement des Pyrénées, par exemple, ou du Piémont pyrénéen. Non. Toulouse, dès le départ, s'est ouvert très largement sur le monde et le muséum est un peu l'héritier de cette grande histoire.
Et c'est ce qui fait la richesse et la valeur de ces collections. Si on parle un peu chiffres maintenant, combien y a-t-il de visiteurs annuels au Muséum de Toulouse actuellement, mais peut-être même depuis sa fondation, ce qui donnera une idée. Hein.
Ou depuis sa fondation, c'est plusieurs dizaines de millions. Actuellement, l'année dernière par exemple, c'est un peu plus de 300 000 visiteurs, 308 824 pour être très très précis. Le muséum est stabilisé aujourd'hui depuis sa réouverture, je dirais aux alentours de 270 000, 280 000. Voilà, le chiffre moyen c'est ça depuis la réouverture. Ce qui montre que c'est un vrai succès. Hein. Avant la réouverture du muséum, lorsque nous avons fermé, le muséum accueillait entre 50 et 70 000 visiteurs. Donc on voit bien que le travail qui a été mené sous l'impulsion de la mairie de Toulouse à l'époque et puis de la métropole aujourd'hui, tire ses fruits puisque de très nombreux visiteurs viennent au muséum. Alors sur les visiteurs, on a à peu près 40% qui viennent de Toulouse intramuros, c'est 50% qui viennent du territoire métropolitain, 80% qui viennent du département, le reste provenant de la région et des régions avoisinantes. Mais sur 300 000, 20%, ça fait déjà beaucoup, puisqu'on accueille en moyenne chaque année 11 000 touristes qui viennent du monde entier.
Voilà, c'est ça, je l'ai demandé. Les touristes, il y en a de plus en plus aussi qui viennent visiter le muséum de
Toulouse. Oui, tout à fait. Cet été, notamment, ça a été très 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 net, hein. On l'a très très bien vu sur les chiffres de cet été, on a de plus en plus de touristes étrangers qui viennent découvrir le muséum de Toulouse.
On parlait de la richesse de ses collections, le muséum est propriétaire de combien de pièces et dans quel domaine ?
Alors nous avons dans les réserves du muséum 2,5 millions d'objets. Lorsqu'on vient visiter le muséum, on n'en voit que 8 000, donc vous voyez qu'on a encore de la marge, et cela intéresse tous les domaines de l'histoire naturelle au sens du 19e siècle, c'est-à-dire tous les domaines naturalistes, la zoologie, la botanique, l'entomologie, la géologie, la minéralogie, bref, tous ces domaines-là, mais également les sciences humaines et sociales, puisque nous avons des collections d'ethnologie et des collections de préhistoire.
Des collections qui sont enrichies régulièrement par des acquisitions.
Alors, il y a des acquisitions, mais évidemment, chaque année, nous avons un programme d'acquisition. Nous acquérons pour les générations futures quelques objets qui intègrent donc le patrimoine toulousain, qui sont donc la propriété de tous les citoyens de la métropole. Hein, voilà. Et puis, bien sûr, nous avons aussi des dons régulièrement, hein, des gens qui voilà, ont collectionné, alors qui des papillons, qui des minéraux ou autre, et qui décident de faire don de ces collections-là au Muséum de Toulouse, et puisque effectivement nous sommes repérés comme un établissement extrêmement important.
Alors ces pièces sont exposées pour certaines au muséum, mais il y en a aussi qui sont prêtées. Elles sont prêtées dans la région, ailleurs ?
Elles sont prêtées partout. Elles sont prêtées dans le monde entier. Nous avons des collections qui circulent dans le monde entier. En ce moment, on a des objets en Allemagne. On envoie des objets également vers d'autres musées en général qui nous sollicitent. Bref, les collections circulent. Si vous voulez, il y a ce que voient les Toulousains et puis il y a ce que nous exportons, ces petits morceaux de Toulouse que nous exportons à travers les collections lorsqu'il y a de grandes expositions un petit peu partout dans le monde.
Et vous prêtez même des expositions clairement j'allais dire.
Alors là, nous louons même le savoir-faire toulousain et montrer, puisque ça circule dans le monde entier. Hein. Nous avons envoyé des expositions en Afrique du Sud, en Colombie, au Vietnam, en Suède, aux Pays-Bas, bref, un petit peu partout. Donc le muséum de Toulouse s'exporte très largement dans le monde.
Alors vous le disiez tout à l'heure, le muséum est soutenu financièrement quasi exclusivement par la métropole de Toulouse, donc par les impôts des citoyens métropolitains, mais il faut dire aussi qu'il y a de l'emploi derrière.
Oui, il y a au muséum, à l'heure actuelle, voilà, directement au muséum, il y a 160 personnes qui travaillent, avec une partie des équipes d'ailleurs qui travaillent à la fois sur le muséum et sur le Quai des Savoirs, hein, donc notamment toutes les équipes techniques, administratives, autres qui travaillent pour les deux équipements, et puis il y a aussi de l'emploi derrière, puisque lorsque le muséum développe une exposition, eh bien nous passons des marchés, des appels d'offres, et tout ça, ça permet à des entreprises locales, eh bien, de développer leur activité. Je pense à du graphisme, je pense à de la fabrication de mobilier, bref, il y a énormément d'activités dans lesquelles nous soutenons à travers les expositions que nous faisons, le développement de l'économie locale.
Vous me disiez tout à l'heure, je crois qu'une exposition, c'est 500 personnes qui travaillent dessus pour la mettre en place.
Tout à fait, la dernière exposition au Quai des Savoirs, c'est plus de 500 personnes qui ont collaboré, en allant d'ingénieurs de chez Airbus à des chercheurs de l'université, en passant par des entreprises, des gens qui ont fabriqué des mobiliers, des gens qui ont développé des multimédias, bref, 500 personnes pour une exposition.
Si je reviens aux missions du muséum que vous avez évoquées tout à l'heure, pour les préciser, il y a des missions qui sont en direction du public, des publics comme on dit, mais il y a aussi des missions qui vont vers la recherche, vers les professionnels, vers l'université.
Tout à fait. Bien sûr, ce que le public voit essentiellement, ce sont nos expositions. Mais à côté de ça, par exemple, nous avons des collaborateurs du muséum qui participent à des actions de recherche. Je pense à une de nos collaboratrices qui, tous les ans, par exemple, se rend au Brésil. Hein, depuis plusieurs années, pour collecter des spécimens qui viennent enrichir les collections, mais qui en même temps font partie d'un programme de recherche. Nous développons des activités de fouilles. Tous les ans, nous amenons un groupe de jeunes toulousains essentiellement travailler avec nous sur un gisement qui nous appartient dans le Gers au mois de juillet. D'ailleurs, on va recruter là très bientôt les futurs chercheurs. On travaille aussi en interface avec le monde économique. Nous travaillons aussi très souvent, nous accueillons des projets du développement de projets, nous sommes un lieu d'expérimentation, donc voilà, c'est aussi tout ça le muséum. Et puis c'est aussi un lieu de culture et de débats citoyens, de rencontres qui permettent de réfléchir à des questions qui a priori ne nous effleurent pas forcément l'esprit à un moment donné, mais là c'est l'occasion de se mettre autour d'une table et de discuter ensemble.
Lieu d'information et de débat dédié aux sciences et consciences du vivant, qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Bien oui, parce que je pense que la conscience du vivant, c'est aussi prendre conscience du rôle que nous, les humains, avons sur l'évolution générale de notre planète, mais également de nos sociétés. Je veux dire, les choix individuels que nous faisons font partie de ce qui définira plus tard le modèle de société dans lequel nous allons évoluer. Donc, se poser les questions, notamment à la lumière du raisonnement scientifique, de l'esprit critique dont on a besoin lorsqu'on est scientifique, développer son esprit critique, c'est aussi ne pas succomber comme ça à des fausses nouvelles, les fake news qui sont aujourd'hui très souvent cité, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous sont assénées, notamment via les réseaux sociaux ou Internet, avec des prises de position qui, parfois, d'un point de vue critique, nécessitent un examen attentif.
Alors, donc, le Muséum d'Histoire Naturelle, comme le Quai des Savoirs, son voisin, est un outil central, maintenant, dans la vocation de partage des savoirs de ce qu'on appelle la direction de la culture scientifique et technique, et même industrielle, d'ailleurs, de Toulouse Métropole. C'est aussi un atout, on en a parlé, pour le développement du tourisme. Je suppose que les élus attendent des choses là-dessus.
Bien sûr qu'un équipement comme celui-ci joue un rôle important et un des axes de la politique culturelle portée par Toulouse Métropole, notamment, c'est le développement du tourisme culturel et scientifique, puisqu'effectivement, nous avons à Toulouse un tropisme très particulier. Quand on met bout à bout la fréquentation des équipements culturels à vocation scientifique, c'est plus d'un million de visiteurs. Donc on voit bien le poids que cela représente et les potentialités de développement touristique. Je veux dire, nos collègues de la Cité de l'Espace ont fait une année extraordinaire avec 450 000 visiteurs. Le muséum a eu une super Banné, Aéroscopia aussi, donc on voit bien qu'il y a sur Toulouse une spécificité scientifique et que ça peut être un élément déclenchant devenu de touriste parce qu'on sait qu'à Toulouse, on va avoir des informations scientifiques de haut niveau, de grande qualité, bien présentées.
Et dans des domaines très variés.
Et dans des domaines extrêmement variés qui vont aller depuis l'aéropostal jusqu'à l'origine de la vie.
Oui, c'est donc aussi une vitrine culturelle, on peut le dire, dont la réputation dépasse largement les frontières métropolitaines et même régionales.
Ah, tout à fait. Je crois que Toulouse est connue internationalement justement pour la qualité de sa recherche scientifique, de ses acteurs scientifiques et de ses équipements scientifiques. Moi, je travaille souvent dans des réseaux européens, je pense au réseau Excite, et Toulouse était cité en exemple dans le réseau Places, qui mettait en contact les grandes métropoles européennes qui travaillaient sur les questions de développement scientifique.
Quelle relation entretient le muséum avec les autres lieux, les autres structures culturelles de la métropole ? Je sais qu'il y a des partenariats, il y a des relations avec des associations, avec l'université. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Bien oui, si vous voulez, un équipement culturel, ce n'est pas le village gaulois d'Astérix. On doit s'ouvrir à la culture, c'est l'ouverture. On ne peut pas travailler isolément dans son coin, donc nous travaillons régulièrement, je pense, avec la direction des musiques, avec Rio Loco, nous travaillons avec toute l'équipe qui anime la saison d'été passe ton bac d'abord. On travaille également avec la Cinémathèque. Nous travaillons bien sûr entre équipements culturels. Nous travaillons avec les autres musées. Bref, il y a un maillage et Toulouse a la chance extraordinaire d'avoir une grande quantité d'équipements culturels de très très haut niveau. Finalement, quand on regarde dans le paysage français, Toulouse est vraiment particulièrement bien dotée. Et du coup, ce maillage que l'on peut bâtir est extrêmement important. Et en plus, il y a sur Toulouse une vie associative intense et notamment dans les questions de culture scientifique. Donc il y a de très nombreuses associations qui travaillent sur ces questions-là, qui font aussi l'interface et le relais de ce qui se déroule à la fois dans les laboratoires de recherche, mais également dans les équipements culturels. Et donc, on a la chance d'avoir à Toulouse, je dirais, un écosystème extrêmement favorable. C'est mon côté biologiste, je ne peux parler que d'écosystème. Mais voilà, on a un écosystème favorable, extrêmement dynamique, et donc nous nouons des relations avec l'ensemble de ses partenaires.
Donc, le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse est devenu un équipement de Toulouse Métropole. Il a basculé dans le giron Toulouse Métropole. Établissement de centralité métropolitaine, je crois que c'est le terme exact. De fait, est-ce que le muséum organise des actions, est-ce qu'il a des initiatives vers les communes de la métropole autres que Toulouse ?
Alors nous travaillons déjà avec quelques communes de la métropole sur des opérations très très ponctuelles, mais nous sommes en train de développer toute une action qui va se dérouler, je dirais, à partir de l'automne prochain vers les communes de la métropole et en particulier vers les équipements scolaires, puisque nous avons sur le territoire métropolitain de très nombreux équipements scolaires et on a mis au point notamment une activité qui va associer lecture et science. Et donc, on va travailler dans ce sens-là. Et puis, bien sûr, essayer d'aider les différentes communes de la métropole qui ont des projets culturels, scientifiques, dans lesquels le muséum peut amener quelque chose. Et bien sûr, nous allons faire en sorte de pouvoir les aider à faire émerger ces projets-là sur leur territoire spécifique. Parce que, bien évidemment, la métropole, on pense, on dit Toulouse métropole, donc on pense Toulouse, mais il faut aussi penser à Fombeauzard, à Tille, à Drémy-Lafage et à toutes ces communes périphériques, Mons et autres, mais qui n'ont pas forcément d'équipement dédié sur leur territoire, mais pour lesquels je crois qu'il est tout à fait important d'agir aujourd'hui.
Alors je voulais qu'on parle d'un lieu là qui est vraiment relié au muséum, et d'ailleurs ça s'appelle les jardins du muséum à Bordeaux-Rouge. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Quelles sont les activités et les missions spécifiques de ce lieu?
Eh bien ce lieu, c'est le prolongement, je dirais, du muséum centre-ville. C'est un lieu où on peut permettre aux citoyens métropolitains de se reconnecter à la nature. Au jardin du muséum, on ne ramasse pas les fruits, on les laisse pourrir. On voit comme ça qu'il y a un cycle naturel, voilà. Et nous avons choisi de travailler sur ces thématiques de jardin dans ce secteur-là de la métropole toulousaine, qui était autrefois quand même le quartier maraîcher qui a nourri Toulouse pendant des siècles. Et donc nous avons installé des jardins, mais en même temps, comme Toulouse aujourd'hui, c'est une ville multiculturelle, c'est une ville où il y a des gens qui arrivent d'un petit peu partout, et bien nous avons thématisé les plantations avec un carré d'Afrique, un carré d'Asie. Schématiquement, c'est « dis-moi ce que tu manges, je te dirai d'où tu viens ». Mais on peut aussi dire, dis-moi ce que tu manges et je te dirai à quelle époque tu vis. Apprendre aux Toulousains aujourd'hui que ben, la tomate, ça semble évident d'en trouver dans un supermarché de la métropole tout au long de l'année, ben non, c'est pas tout à fait normal, hein. Il y a des cycles naturels. Donc voilà, essayer de reconnecter les gens à cette dimension de l'histoire naturelle et de la nature, c'est le rôle en particulier des jardins du muséum. Et puis c'est aussi, je crois, un équipement de proximité pour ces quartiers nord de Toulouse. Et il est important, et le muséum s'implique énormément, notamment dans toutes les actions politiques de la ville qui sont portées sur ce secteur-là de la métropole.
Le muséum, aujourd'hui et demain, quelles sont les perspectives, les ambitions pour votre établissement dans les années à venir?
Les ambitions, c'est d'abord de poursuivre le développement, c'est d'asseoir aussi ce rôle d'équipement culturel de haut niveau pour la métropole toulousaine, de le faire rayonner, de porter haut et fort au niveau régional, national et international les couleurs de la métropole toulousaine, et puis d'essayer de participer à notre modeste niveau à tous les débats de société qui ne vont pas manquer de surgir dans les années à venir.
Et oui, Dieu sait qu'il va y en avoir encore. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Francis Duranton, d'être venu à Métropole et vous pour évoquer avec nous l'émission, les activités et tout ce que fait le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui fête donc cette année les 10 ans de sa rénovation, un établissement culturel parmi les plus visités de la métropole toulousaine et dont la fréquentation croît d'année en année, grâce à ses collections permanentes, bien sûr, mais aussi à l'intérêt des grandes expositions annuelles qu'il présente. À ce propos, je recommande vivement d'aller voir la passionnante exposition Rapace, toujours en cours actuellement. Vous pouvez la découvrir jusqu'au 29 avril et profiter des vacances de février pour y aller en famille avec les enfants. Pour en savoir plus et avoir toutes les informations sur cette exposition et sur tout ce que propose le muséum, je vous invite à consulter son site internet www.museum.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.